On en jase. Ton émission du midi, les midi une présentement. On va avoir plein de nouvelles à vous jaser encore une fois. Hé! Hey. Pablo. On en parle depuis 3 semaines. T'as dit?
Même pas, en plus.
L'homme le plus populaire.
On a l'impression que ça fait 3 semaines, mais
ça fait même pas 3 semaines.
Ça fait même pas encore 3 semaines. C'est juste que, vu qu'on en parle 24 heures sur 24 et fin de semaine incluse, ça vaut dans double, je pense.
Pauvre Pablo Rodriguez. Santanine Iacarini, ça va bien?
Oui, vous autres?
Oui, ça va super bien. Pascal CV, comment ça va?
Ça va très bien.
Excellent. On a notre chum Mathias Turcotte qui est présentement au point de presse de Bruno Marchand concernant le budget de la ville de Québec. Alors, il va nous revenir aux alentours de 12h30 avec plus de développement. Mais sans surprise, on a annoncé taxe commerciale hausse à 1,4%, taxe résidentielle à 1,9%. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis les fusions municipales, on arrive enfin à fusionner le taux de taxation. Donc, que tu habites à Charlebourg, à Cap-Rouge ou au Lac-Saint-Charles, tu payes le même taux de taxe. Alors ça va être intéressant. Comme ça, on va arrêter d'entendre des gens de Beauport dire « Ouais, mais ouais, ça a augmenté de 28%! » Ce qui était vrai en passant, puis il y avait raison de se plaindre. Mais là, enfin, on a réussi à harmoniser ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a bien des gens qui s'ennuient de leur ancienne ville, là, de Beauport et Charlebourg, mais oh my God, vous aviez pas travaillé tuyau, M. Langlois et M. Mercier. A fallu faire du rattrapage quand on vous a fusionné. C'est
puis
ça qui est arrivé.
Ça coûte cher. C'est ça que tu faisais comme signe?
Non, je me suis gratté la main. Que ça n'avait pas rapport.
Parce que le signe était très approprié au propos parce que ce que je voyais, c'est comme quand tu
lances l'argent.
Des liasses d'argent sur des gens, mais dans divers contextes. Mais cette fois-ci, c'était pour des tuyaux.
Donc...
Écoute, mais il y a du monde qui ont trouvé ça fort agréable. Par contre, quand on parle au niveau du RTC et tout ça, tu sais, le Boischatel, qui est toujours pas fusionné et qui a décidé d'être le petit Gaulois du transport en commun avec plus mobile, ça fonctionne, mesdames et messieurs. Je pense que ça pourra faire jaser. Mais de les voir rassemblés comme ça, de se jaser. Mm-hmm. Et je me souviens que Bruno Marchand voulait bien avoir des discussions avec Stephen Blainey. Il savait pas que ça allait être Stephen Blainey à ce moment-là, mais son acolyte au niveau de Lévis. Moi, je trouve qu'enfin, c'est rafraîchissant. Mm-hmm. Puis un maire comme M. Junot, qui est très apprécié dans Saint-Augustin et tout ça,
exactement,
va peut-être faire changer la donne sur les communications, la manière de faire avancer des dossiers à suivre.
Si vous voulez entendre le maire Junot, justement, qui a été exclu de la CMQ hier, donc il a été en entrevue avec nous dans Marceau le matin, 8h45. Ça se retrouve sur blvd.fm.
Et ce soir, dans l'émission de Gravel, 16h15, Bruno Marchand sera là.
Exactement. Donc, rendez-vous à ne pas manquer sans l'ombre d'un doute. On amorce immédiatement le caucus parce qu'on a plein de choses à jaser en termes de politique provinciale.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iacarini.
Tabarnouche, t'es-tu en train de me reprendre parce que j'ai dit que je serais peut-être un souverainiste?
Exact. Si t'es souverainiste, je veux juste te dire, c'est dans notre secte, il y a toutes sortes de
coutumes.
Et on
La secte des souverainistes?
La secte des souverainistes. Et on essaie de dire le moins possible le mot province.
OK. Donc
parce que province, c'est pour les vaincus.
Okay,
l'origine
parfait.
Du mot. Alors, on dit Québec pour tout, on dit nation. Donc, on ne dit pas politique provinciale, on dit politique québécoise.
Alors,
et là, vous riez, mais dans les communications gouvernementales, vous allez remarquer, le gouvernement du Québec, peu importe le parti, c'est assez rare qu'ils disent provincial.
Alors,
vous allez remarquer maintenant.
Nous allons parler, mesdames et messieurs, de notre nation.
Ah, voilà!
La politique de notre nation qui fait en sorte que ce matin, on se réveille. Et là, depuis 11h30 aujourd'hui, je suis tout heureux parce que on m'a dit, Jean-François, tes rêves de voir l'État diminuer, tes rêves de voir le budget devenir moins contraignant avec une moins grosse dette se réalise parce qu'on va couper 5000 employés. France-Hélène Duranceau a annoncé ça.
Jean-François, c'est pas juste ça, là, l'annonce d'aujourd'hui. Là. Parce que c'est vrai qu'on pense pas révolutionner le monde avec une coupure de 5000 postes dans la fonction publique.
Ouais, mais là, la CAQ, François Legault est sorti, puis là, il m'a dit au mois de septembre, je vais m'attaquer à la bureaucratie.
Ouais.
C'est ça qu'il a fait, là?
Il a dit ça. Puis après ça, dans le discours d'ouverture, il nous a dit ça. Puis là, à matin, François-Hélène Duranceau, président du Conseil du Trésor, donc responsable de l'administration gouvernementale, est sorti aussi pour nous dire comment on va faire ça, on va couper dans la bureaucratie. Mais je sais toujours pas quoi. Comme, sérieusement, ça fait des mois qu'on nous dit on va couper dans la bureaucratie.
OK.
OK, un quoi? Qu'est-ce qui va être coupé?
Oui, c'est ça, mais là, François-Hélène ne nous l'a pas dit.
Non, parce que ce matin, l'annonce de la présidente du Conseil du Trésor, c'était de donner 5 grands axes, je t'ai nommé pas tous, là, pour alléger l'État. Okay? Donc, oui, on coupe 5 000 postes, gel d'embauche à l'externe. Donc, tu ne peux plus embaucher. Si tu as besoin de quelqu'un, il faut que tu le trouves à l'intérieur de l'appareil gouvernemental. Ça tombe bien parce qu'on coupe des postes. Fait
que... C'est ça. Fait que
bon, on replace le monde. Gèle à l'interne aussi. Si ton ministère, là, toi, là, tu es sous-ministre, je sais pas, des transports. Puis là, tu n'atteins pas les objectifs de coupure de postes. Tu n'atteins pas les objectifs de contrôle des dépenses. Ben, tu n'as même pas le droit d'aller recruter dans un autre ministère.
OK, parfait. Est-ce que, j'ai une question pour toi, est-ce que les sous-ministres sont des médecins?
Non.
Bon, on va pouvoir leur mettre des objectifs. Parfait. Yeah, good.
Exact.
Yes, bravo.
Bien joué. D'ailleurs, par
j'ai
contre,
eu peur
tu me fais
à
penser.
Donné.
Oui, parce que c'est vrai, on peut pas. Par contre, tu me fais penser que santé et éducation sont protégés contre ce genre de mesures-là. Donc, ça ne touche pas santé et éducation, c'est le ministère.
Oui, ce qui est correct, là, toi, c'est très, très, très logique. Là. Ça tiendra, je ne déchirerai pas ma chemise pour ça.
Autre mesure qu'on nous annonce aujourd'hui, les fonctionnaires étaient requis au bureau 2 jours par semaine. Maintenant, ce sera 3 jours par semaine.
Oui, et ça, d'ailleurs, on écoute France-Hélène Duranceau par rapport à ça. Pourquoi ce retour à 3 jours en présentiel?
Transformation de l'État, c'est aussi une transformation de la manière dont on travaille au quotidien. Oui, faire les tâches qui sont les plus pertinentes, mais comment on s'organise au quotidien pour livrer ce qu'on a à livrer? Alors, on pense que le retour au bureau à 3 jours semaine, à partir du 26 janvier 2026, fait partie d'une meilleure organisation du travail. On pense aussi que ça va renforcer la collaboration entre les collègues, cohésion, sentiment d'appartenance, créativité, le mentorat, puis je vais utiliser le mot coaching, là, qui me collait bien. Alors, ça aussi, c'est important de voir les gens. Les humains sont des bêtes sociales, là, alors c'est important de s'assurer de rencontrer les gens et de ne pas juste se côtoyer à travers un écran.
418-971-1021, vous en pensez quoi de ce retour à 3 jours au travail après ce discours de France-Hélène Duranceau? Bon, mis à part le fait que je ne savais pas que c'était une coach, le reste, c'est rempli de logique.
Bon, OK. Sur le coach, là, moi aussi, ça m'a accroché l'oreille parce que moi, en tant que passionné des communications claires, des fois, les gens sont dans leur tête en titi.
Ah, oui.
De quoi qu'elle parle? Comme vous savez, ça me colle bien être une coach. On ne savait pas ça.
Ben non, c'est ça.
Tout le monde est au courant que ça lui colle bien à la peau.
De quoi qu'elle parle?
Qui?
Elle fait du coaching de quelqu'un, je ne sais pas, moi.
Qui était au courant? Sa mère?
Ça, c'est quand tu es dans ta bulle un petit peu, ça arrive. Ouais. Pour en revenir au télétravail, honnêtement, c'est vraiment correct comme mesure.
Oui.
3 jours semaine, c'est très correct. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut trouver l'équilibre parfait. Parce que aller au bureau à tous les jours, t'sais, vous autres, vous le faites, là, aller venir sur place à tous les jours, vous ne faites pas de télétravail,
pas
c'est correct. Il y a des jobs qui ne s'y prêtent pas. Mais quand tu fais des jobs de bureau, passer du temps dans le trafic, là, gosser ses lunchs, la flexibilité, être obligé de prendre congé pour que le plombier vienne chez vous, des affaires de même. Moi, personnellement, l'arrivée du télétravail et de cette flexibilité-là a augmenté ma productivité beaucoup plus parce que je perds bien moins de temps dans mes déplacements, etc. Par contre, si tu es 100 % en télétravail, bon, premièrement, s'il y a des gens qui sont moins travaillés un petit peu, ben c'est plus difficile de les voir. Mm-hmm. Même si on dit « Ah, mais tu sais, il faut que tu atteignes tes objectifs », honnêtement, c'est quand même... Tu sais, mettons que j'ai atteint mes objectifs puis je peux aider mon collègue, quand je suis tout seul chez nous, ben je peux peut-être aller niaiser sur Netflix, alors que quand tu es au bureau, tu vas peut-être plus faire « Hey, peut-être que je peux t'aider, cher collègue, avec quelque chose. » Deuxièmement, dans la fonction publique, un des problèmes qu'on a, c'est les silos. C'est sûr que si tu es chez vous, là, puis, tu sais, des fois, on fait l'image, là, du fonctionnaire qui est dans son cubicule, puis qui fait juste son dossier, puis ça, c'est pas ma job le reste. Je fais vraiment un cliché. J'apprécie beaucoup le travail des fonctionnaires. Mais c'est sûr que quand tu vois jamais tes collègues, je trouve que ça augmente le syndrome de l'isoloir. Pas de l'isoloir, là, mais du cubicule.
Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, vous savez, j'ai travaillé au RTC, puis. C'était le gros défi au RTC de réussir à faire en sorte que la planification du service parle avec l'exploitation du service qui vit des problèmes pour qu'on améliore pour la saison suivante, qui parle avec les superviseurs des chauffeurs d'autobus pour être sûr de bien coacher sur les nouveautés. Alors, si tout ce beau monde-là se retrouve en télétravail, oublie ça.
Puis tu prends pas, je veux dire, tu prends pas rendez-vous avec quelqu'un pour échanger quelques minutes sur qu'est-ce qui se passe dans ton secteur. Non, c'est pas vrai, là. Tu sais, Il y a un équilibre à respecter. Par contre, parce qu'il y a toujours un mauvais côté de la médaille à tout, tu sais, à la suite de la pandémie, quand on a envoyé les gens 100% en télétravail, mm-hmm. puis retour au bureau 2 jours par semaine, ben on organisait aussi les espaces de travail différemment.
Exactement.
Tu sais, les petits bureaux fermés, puis le petit classeur où est-ce que tu peux mettre tes souliers, puis ton déo, puis ta brosse à dents, oui. ça a pris le bord.
Là, on comprend, tu n'auras plus ta photo d'enfant sur ton bureau, parce que ça va être un bureau partagé.
Ouais. Ça, c'est fini, mais tu sais, je fais des jokes avec la brosse à dents et le déo, là. Mais mm-hmm. tu sais, traîner ta vie tout le temps dans ta mallette, là.
Non, c'est
inconfortable. Ah, ouais. Deuxièmement, ben, il y a moins de salles de réunion. Les espaces, souvent, ont été réduits. Pas nécessairement dans tous les ministères, mais il y en a quelques-uns qui ont réduit leurs espaces.
Et avec raison, parce que c'est des coûts qu'on vient économiser.
Puis, tu sais, je vais faire un parallèle avec l'agence de com avec laquelle je collabore régulièrement. Tout le monde est au bureau, là, ça ne marche pas. Il n'y a plus de salle de réunion. On n'est plus capable d'avoir une salle de réunion parce que c'est maintenant fait pour que tout le monde soit pas là en même temps.
T'as raison.
Donc, bref, à suivre. Mais bref, France-Hélène Duranceau, elle laisse beaucoup de latitude à chaque ministère. T'sais, oui, elle est responsable de donner les grandes orientations et les objectifs finaux, mais elle ne peut pas aller dans le détail. Puis honnêtement, je me dis, le temps comme file là, jusqu'à la prochaine campagne électorale, est-ce qu'on va voir vraiment des mm-hmm. choses coupées et des résultats de ces grandes orientations-là?
Ça va être difficile.
Il aurait fallu le faire il y a 2 ans.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, par contre, je suis très positif avec son approche. Et je m'explique, je déteste qu'un haut gestionnaire vienne faire du micromanagement. Donc, en disant, hey, voici les grands objectifs, voici les grandes orientations.
Arrangez-vous comme
maintenant,
vous voulez,
mais atteignez-les. Ceux qui sont sur le terrain, atteignez ces objectifs-là. Moi, je trouve qu'elle agit en gestionnaire responsable du Conseil du Trésor. J'adore ça. Mon point, c'est que pour le reste, ça reste très flou.
Oui.
Tu en as parlé, la bureaucratie, c'est quoi? Et je vous fais entendre un échange également. Je crois que c'est avec Louis Lacroix de Cogeco sur le fait qu'on mise beaucoup à dire « je coupe 5 000 postes », mais dans les faits, c'est l'équivalent en heures de 5 000 postes parce qu'on offre la possibilité maintenant aux employés de l'État de travailler 32 heures semaine au lieu de 35. Et ça, ça manque énormément de précision pour moi.
Bien, ça, c'est volontaire, là. Alors, tu sais, c'est pas un nombre, à moins que...
On n'a pas les informations.
C'est 50 000 personnes globalement dans le gouvernement qui peuvent être éligibles à ça. Après ça... Ça va être une discussion entre les individus et leurs gestionnaires selon le volume de travail puis selon leur perspective.
Mais c'est parce que c'est beaucoup là-dessus que vous misez, là.
Non, c'est un des cinq leviers.
Comprends. Mais si vous coupez personne...
Bien, s'il y a un poste qui reste non comblé, c'est des heures de moins. Si je coupe de la bureaucratie puis des rapports puis il y a des annonces qui s'en viennent à cet égard-là, c'est aussi des heures qui ne seront pas travaillées. Si on mutualise des services puis des fonctions, c'est aussi des heures en moins parce qu'on les concentre à un endroit plutôt qu'à un autre. Alors, c'est le cumul.
C'est-tu une annonce pour faire une annonce? Parce que t'as entendu la même chose que moi, Pascal? Si on coupe dans la bureaucratie, si on mutualise, on a assez de gens qui veulent 32 heures... OK, mais comment tu fais pour arriver à 5 000?
Il me semble que ça aurait été intéressant qu'elle arrive... Dans ses consultations... Ils ont consulté tous les ministères déjà, OK?
Mm-hmm.
Avant de faire cette annonce-là. De nous arriver avec quelques exemples concrets. Parce que je comprends qu'elle ne pouvait pas, elle, dire « ben c'est ça qui va être coupé, fait que là, je peux vraiment faire mon calcul. » Elle ne sait pas encore ce que les ministères mm-hmm. vont couper exactement. Mais ça aurait été intéressant qu'elle nous arrive avec quelques exemples plus concrets, je pense.
Oui, plus concrets.
Mais elle ne pouvait pas arriver avec les chiffres finaux.
Ouais,
c'était pas possible.
Non, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je connais des gens qui travaillent au ministère de l'Éducation, puis ils ont déjà commencé le travail. Puis ils ont déjà des gens qui sont partis à la retraite. Ils ont réparti le travail entre d'autres. Fait que ça fait en sorte que dans une unité qui était 12, ils sont rendus 9. Ben ça, c'est un exemple concret de dire « Hey, voyez ce que ça fait par attrition, vous voyez, telle ressource a été prêtée à
mais
tel endroit,
pas eu le total,
on ne l'a pas remplacé. »
Tu n'auras pas le total de nombre de personnes là.
Non, exactement, tu n'auras pas le total là, mais
on
au
l'aurait
moins...
si elle avait annoncé, si le gouvernement Legault avait fait ça il y a 2 ans.
C'est ça, mais au moins, je reviens à ton exemple, je reviens à ce que tu disais d'exemple concret. En passant pour le télétravail, il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, moi, j'avais été embauché à 100% télétravail, fait que là, on me fait arriver 3 jours au travail. » En effet.
Mais ça, c'est autre chose. Puis on a déjà discuté ensemble, je pense, dans les technicalités. Si dans ton contrat, c'est écrit, tu vas probablement essayer de te défendre quoi que ce soit. Après ça, dans les droits du travail, est-ce que c'est applicable? Est-ce que quelqu'un est capable de se défendre puis garder son droit acquis, admettons, au niveau du contrat?
Un fonctionnaire, peu importe comment tu as été embauché, c'est appliqué. Ils gagneront pas.
Non, c'est ça.
Au privé, peut-être.
Ouais. Une auditrice nous écrit « Bon, bien beau le retour au bureau, mais vu que mon équipe est répartie partout dans la province, je vais quand même faire 3 journées de Teams. »
Bien, il y a ça, Puis, la CAQ avait promis d'envoyer des postes en région, mm-hmm. justement. Mm-hmm. Donc, quand t'es, mettons que toi, t'es à Bécomo, là, puis t'es tout seul de ton équipe à aller au bureau. Hey, tu vas aller faire du présentéisme au bureau. Je sais pas comment ça augmente.
Ils vont payer des bureaux pour ça.
C'est
exact.
Ça.
Fait que, tu sais, il y a ça aussi à travers cette annonce-là. Je pense que le principe est bon, mais quand tu regardes certains cas précis, ouais. tu te dis...
Dans l'application.
Dans ce cas-ci, je suis pas sûr que ça augmente. Les beaux avantages qu'ils mettaient de l'avant seront pas atteints par tout le monde. Là.
Et je termine avec un commentaire sur Twitch. Elle va demander au gestionnaire de couper là où ils jugeront nécessaire. Donc, si le gestionnaire est à couper, on ne le saura jamais.
On s'auto-coupe, ça c'est rare hein, que les gens s'auto-coupent.
C'est un bon point, mais là j'imagine qu'il y a des gestionnaires au-dessus qui ont le job aussi à
mais
faire.
Imaginez qu'ils regardent juste la colonne salaire, mettons, puis ils descendent. Ouais. Tabou, un méchant gros salaire, ouais. voyons donc. Tourne à gauche, c'est son nom qui est écrit, elle va passer vite.
Mais il faut comprendre par contre que les plus hauts gestionnaires, donc les sous-ministres et sous-ministres adjoints, sont nommés par le gouvernement.
Non, c'est ça.
Donc si, ben tu sais, on coupera pas les sous-ministres, là, mais tu comprends, il y a un jeu de... Si le sous-ministre n'atteint pas ses objectifs ou fait pas ce que le gouvernement lui demande, il se fait sauter.
Ouais. Mais bref, moi, je suis quand même en faveur du retour au travail parce que pour tout ce qui est cohésion sociale, cohésion d'équipe, enlever l'isolement social, puis là, t'sais, c'est quelque chose de très personnel que je vais dire parce que ça va avec mes valeurs, mais moi, je trouve que le télétravail a créé de la paresse.
Moi,
les gens qui sont à la maison, foirés, puis ils restent foirés.
Je pense que les gens paresseux, ils niaisaient au bureau. Puis ils nous dérangeaient au bureau.
À machine à café.
Ils étaient tout le temps rendus à machine à café.
Ouais, c'est vrai aussi.
Tu sais, le collègue qui fume des cigarettes aussi, là. Tout le temps rendu en train de fumer, tu te dis, Christy, ouais. dans sa journée, ça fait combien de temps? Moi, Mais je pense que si t'es paresseux, t'es paresseux. Tu vas toujours trouver une manière. C'est sûr que t'as un peu plus de contrôle en étant à la maison. Moi, honnêtement, être en télétravail, ça m'a aidé. Parce que je suis plus capable d'être focus. Je perds moins de temps avec des niaiseries. Tu sais, l'idée maintenant de me faire un lunch à tous les matins puis d'arriver à 5h30 du soir pour commencer le souper, là, je trouve ça d'une lourdeur infinie. Par contre, évidemment, on s'organise toujours en conséquence puis on réussit. Mais je suis pas sûre que y a... Tu sais, il faut qu'on trouve l'optimum, là, tu sais, le point parfait là, qui fait en sorte qu'on a la productivité maximale.
Passons à un sujet chaud, c'est-à-dire Pablo Rodriguez et le Parti libéral du Québec.
Tu trouves que Pablo est chaud?
Il est chaud. Ouais, c'est ça. Non, je trouve pas nécessairement qu'il est chaud. Ben, peut-être certaines femmes avec sa coupe de cheveux, je sais pas, son long toupet, peut-être. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai comparé hier la façon de procéder du Parti libéral du Québec à la façon de procéder à la FTQ Construction.
Ah.
Parce que quand on nous dit qu'on fait pas bien les affaires, on cherche pas à savoir qu'est-ce qui est pas bien. On cherche à savoir c'est qui nous a menti et on l'exclut de l'équipe.
Si je vous ai convoqué, c'est pour vous annoncer que j'ai pris la décision d'expulser Marois Risky du caucus du Parti libéral du Québec. Je lui ai demandé qu'on se parle, vous le savez, elle refuse de le faire. Elle a choisi de tourner le dos à notre équipe. Ça suffit. Ça suffit.
Suffit. Admettons qu'on y va sur la forme pour commencer, parce que je pense que ça a frappé l'imaginaire de nous trois et l'imaginaire de tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et en passant, 418-971-1021, vous avez été énormément à réagir pour le télétravail. Ça a-tu pas l'air d'un leader?
Oh, regarde, c'est...
Non, mais tu sais, il me semble, là, OK, là, je l'ai mis dehors Risky parce que là, elle a été contre notre parti, puis il n'y a personne qui va aller contre notre parti. Le Parti libéral, on n'est pas un parti de corruption, puis pic.
Suffit. Il l'a dit, puis il a mis une pause entre les deux mots.
Oui, puis là, il a redit après ça. Ça suffit. Essoufflé d'avoir parlé 22 secondes.
Il était essoufflé, il est chaud. Il est chaud, Pablo, il est chaud, on le disait tantôt.
Fait que sur la forme. Comment tu veux qu'on y fasse
mais
confiance?
Il n'est pas capable. Parce que honnêtement, dans chaque je suis certaine que l'équipe autour de lui dit « Là, monsieur le chef, il faudrait respirer, il faudrait être un petit peu plus... avoir un débit un peu plus lent quand vous faites vos conférences de presse. Ça peut donner une impression de panique. » Puis il ne s'est aucunement ajusté depuis 2 semaines. C'est le même point de presse essoufflé qu'on a.
Ah oui!
Là. Il est essoufflé, là. Puis, je le comprends, là, ça va pas très bien.
C'était soufflant,
là. J'en suis, mais il faudrait peut-être qu'il fasse un peu de cardio, notre pauvre monsieur Rodriguez. Exclusion de Marois Risky. Écoute, je pense qu'il y a des gens qui ont dû dire, OK, c'est quoi l'annonce? Parce que pas mal de monde pensait qu'elle était déjà exclue. Elle était suspendue.
Ah non, c'est ça.
Puis là, hier, dans la tourmente et tout ça, il a décidé de créer lui-même une nouvelle en excluant officiellement.
Oui, dans la tourmente là, des prêtres, non, à 500 $ là. Mais,
ils ne savent plus quoi faire comme diversion en passant. Là. Ils ont essayé d'annoncer une candidature vedette la semaine passée.
Ça a passé
le fils
dans
de
le beurre.
Jean Charest, ça a passé dans le beurre. Là, on annonce l'exclusion là, proactivement là, de, non, de Marois Risky. On ne sait plus quoi faire, on dirait.
Mais la gangrène est prise. Et en plus que la gangrène est prise, là, on commence à vilipender les médias.
Avez-vous de l'information qu'on n'a pas? Avez-vous de l'information qu'on n'a pas? S'il vous plaît, dites-nous-les. Là. Mais ce monde-là, on va les mettre dehors. Oui, Mme Prince. Ben écoutez, là, avez-vous de l'information, Mme Prince, qu'on n'a pas? S'il vous plaît, donnez-nous-la. Là. Comme ça, ce monde-là, là, on
alors,
va leur donner...
Suivez-nous à LCN parce que la deuxième heure du TVA Midi se poursuit à l'instant.
Ben là, écoutez, encore une fois, ce que je vous dis, là, Y a-tu quelque chose qui a été dit, qui n'a pas été dit encore? Oui, c'est qui ces personnes-là? Je comprends.
Vous en prenez les médias?
Un instant, là. Oh, mais
justement,
c'est
les médias qui font un job à votre place.
Parlez-moi, là.
Vous en prenez les choses dans les médias?
Ben, on en apprend un petit peu à tous les jours. Alors, au bout, je veux savoir ce qui se passe. Comme ça, on va être mon message et qu'on sache chez qui, qu'on les mette dehors. Parce que là, on commence à être écœuré.
C'est la job du Parti libéral de savoir ce qui se passe à l'intérieur du Parti libéral. Avez-vous des noms? Savez-vous ce qui se passe? Bien là, si t'es une organisation qui se respecte, puis on s'entend, là, Parti libéral a de l'histoire vieux comme le Québec. Là.
Le parti de la corruption. OK. Dans le fond, là, si les libéraux avaient déclenché eux-mêmes une enquête interne quand les textos se sont mis à circuler, Enrico ne serait pas en train de crier dans le corridor à l'Assemblée nationale. C'est qui? Il est où, le petit bum? Bien... Vous auriez dû nous annoncer c'était qui les petits bums, puis que vous les avez exclus proactivement. Ça aurait été une bonne gestion de crise. En fait, ça aurait été une gestion de prévention de crise. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu. Et là, ben, moi, j'ai pas senti qu'ils reprochaient aux médias nécessairement ce qui se passe. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on peut pas se défendre de quelque chose qu'on sait pas exactement c'est quoi. Si on apprend c'est quoi la vérité, là, on peut poser des gestes. Puis il n'y a pas tort sur le fond des choses.
C'est vrai.
Mais ils ont quand même leur tort de ne pas avoir pris des mesures plus tôt parce que ces textos-là qui parlaient de malversation dans le financement de Pablo Rodriguez, ça faisait depuis le printemps dernier que ça circulait. Et c'est sûr qu'il y a un message aussi pour Marois Risky à travers ça. Parce qu'elle refuse toujours de parler. Elle refuse toujours de s'expliquer. On spécule depuis deux semaines là-dessus, mais il y a deux options possibles. Soit qu'elle a une bombe entre les mains et que c'est tellement gros qu'elle ne peut pas interagir avec une enquête là, qui est en cours.
Mm-hmm.
Ou elle n'a pas grand-chose dans son jeu, puis elle préfère que la spéculation continue, puis là, de voir Pablo Rodriguez s'auto-détruire ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y avait un désaccord au départ avec l'ancienne directrice de cabinet Geneviève Vince, des désaccords sur le budget, mais c'était rien là, pour que l'UPAC s'en mêle, là, on s'entend. Là. Et que là, ben, quand elle est sortie, quand elle a congédié Mme Vince, puis que l'histoire des Brownies est arrivée un peu par hasard en même temps, ben, c'est comme si ça devenait un argument pour elle. T'sais, dans le sens, je ne suis pas sûre que l'exclusion, le congédiement de Mme Hinz avait quoi que ce soit à voir avec les questions de financement politique. Mais une fois qu'elle s'est tarée dans son silence, on spécule que oui. Donc, ça lui sert à quelque part. Elle dit dans son message Facebook d'il y a quelques jours là, qu'elle a publié avant le passage de son chef à Tout le monde en parle, elle disait « c'est une affaire de ressources humaines ». Non, en politique, il n'y a pas d'affaire de ressources humaines, puis il n'y a pas d'affaire purement judiciaire. C'est politique, tout est politique. Elle le sait très bien. Deuxièmement, elle disait qu'elle ne pouvait pas parler parce que quand tu congédies quelqu'un, tu n'as pas le droit de dire les
mais
raisons.
Mais sur ce point-là, par exemple, Geneviève Vince, elle a dit, mais elle a juste à parler.
Elle a renoncé à la confidentialité. Et deuxièmement, pour ce qui est des risques de poursuite ou quoi que ce soit, les députés ont ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Donc, elle peut aller dire au Salon Rouge, d'habitude, c'est le Salon Bleu, mais là, c'est ainsi ta rénovation, mm-hmm. Donc c'est le Salon Rouge. Elle peut aller dire des choses et ça ne peut pas faire l'objet d'une poursuite. Si c'est de l'ordre criminel, c'est autre chose. Elle peut pas, là, tu sais ça. Mais si c'est de l'ordre civil, elle peut aller prendre la parole et expliquer les raisons du congédiement de Geneviève Vince. Pourquoi elle refuse de le faire?
Donc, tu es en train de me dire qu'elle pourrait au minimum prendre la parole sur certains enjeux.
Oui. Puis maintenant, évidemment, il y a une poursuite. Geneviève Hinz poursuit Marois Risky. Mais Geneviève Hinz, elle n'est pas députée. Elle va aller par la poursuite. Mais Marois Risky, elle pourrait prendre la parole et dissiper au moins une partie du brouillard mm-hmm. qui flotte au-dessus de son parti. Moi, je comprends qu'elle préfère ses propres intérêts que celui de son parti politique. C'est ses choix. Mais éventuellement, on va finir par le savoir, ce qu'elle avait entre ses mains. Là.
Bien, parce que tu sais, depuis tantôt et puis depuis des semaines que vous m'entendez dire « Ouais, le Parti libéral, ça n'a pas d'allure, comment qu'il gère ça? » Puis Pablo Rodriguez, c'est pas un bon leader, et je le crois pertinemment, mais... Moi, personnellement, je suis rendu à l'endroit aussi où là, Marois Risky ne peut plus se terrer dans son silence.
Tu sais, la transparence aussi, si elle est si justicière que ça, tu sais, dans le fond, là, de donner les informations, ça va l'aider elle, parce que honnêtement, ça commence à être un peu bizarre.
Oui.
Ça va aider son parti. Moi, je m'en fous du Parti libéral, mais si elle a le moindre attachement envers son parti, elle voit bien la situation dans laquelle tout le monde est présentement. Et ça va aussi permettre de réparer la réputation de Geneviève Hinze. Peut-être qu'elle l'haït puis qu'elle ne veut pas réparer sa réputation, mais je veux dire, sa réputation à Geneviève Hinze, elle est entachée.
Non,
elle n'a pas moyen de se défendre parce qu'elle ne sait pas pourquoi exactement, qu'est-ce qu'on lui reproche. Donc, je trouve que ce serait gagnant qu'elle sorte. La seule raison pour laquelle je vois qu'elle ne voudrait pas sortir, bien, la première, c'est que c'est une avocate conseillée par des avocats. Là. Des fois, ça fait ça. Mais l'autre raison, c'est que j'ai l'impression que c'est pas si gros que ça, ce qu'elle a entre ses mains.
Oui, c'est ce qu'on pense. C'est une grosse bombe. C'est pas si gros que ça. En tout cas, bref, tu sais... Faudrait au moins qu'elle donne certaines informations. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Parce que là, le sondage de ce matin, publié, Parti libéral à 21%, moins 6% par rapport au 12 novembre.
Personne n'est surpris de ça. Là.
Non, personne. Parti québécois, 39% plus 7%, un score record dans les 15 dernières années.
Personne n'est surpris de ça.
Non.
Ben, attends, excuse-moi. Le Parti libéral perd 6 points et ça s'en va au PQ?
Oui, mais c'est ça. Yannick nous questionnait là-dessus ce matin. Il disait, voyons, je comprends pas. Moi, j'ai eu comme... Denis Gravel a dit, moi... Ma théorie, c'est que les gens veulent voter pour le gagnant. Ils savent que c'est le PQ qui va gagner.
Je suis d'accord avec
m'en
ça.
Va là.
Oui.
Moi, j'ai parlé de crédibilité parce que depuis 3 ans dans les sondages, quand on parle de la personne qui ferait le meilleur premier ministre, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. Fait que là, les gens disent, moi, je vote pour PSPP. Oh, y'a le référendum. Oh, y'a la souveraineté. Je voterai non. J'y vais.
Ouais.
Toi, Pascal, t'en penses quoi?
L'alignement. Je pense que ce sont les seuls en ce moment qui n'ont pas eu de sortie de zone ou de route. Ils tiennent.
C'est très bon.
Ils disent,
les autres sont en crise.
Les autres sont, c'est le seul parti qui ne l'est pas. Ouais. Alors que tu sois souverainiste ou pas, séparatiste ou pas, ou tu es écœuré de prendre le clos. Tu es dans le ravin depuis une couple d'années, puis ce sont les seuls qui ont décidé de passer à travers la boîte puis de réussir à s'en sortir en ce moment.
C'est quand même drôle. Puis, mettons, tu pensais voter libéral, puis là, un mois plus tard, tu votes le PQ.
Mais je pense
spécial,
que le monde est désillusionné et est vraiment écœuré de la politique. Ils ont juste hâte que ça se place parce que quand
tu
es orphelin politique, c'est souffrant.
Pascal, moi, tu pourrais voter Parti conservateur du Québec.
Oui, mais Parti conservateur, on va dire ce qu'on a dit un matin. 13 %. Il y en a 5-6 % de ce monde-là. Là. C'est des coucous. Là.
Ouais, c'est faut bien qu'il y aille à quelque part. Là. Il y a un parti politique.
Oui,
il y en a un qui est plus ancien que l'autre. Je reviens avec ma première phrase. Il est plus ancien que les autres partis.
Oui.
Même au sein du conservateur
tu
qui prend pas la...
valeur à mener. Ça tue un petit
moi, je pense
impact.
Que tu peux piler dessus. Rendu là, les orphelins
le bien,
politiques
là.
Ou on pas, c'est peut-être...
Mais je comprends ton jeu de valeur. Sauf qu'on vient de nommer 3 raisons qui sont crédibles. Je veux
tout
voter pour le gagnant. Je veux voter pour mon premier ministre.
Je suis d'accord avec tout ça.
Puis là, le PQ, c'est le parti le mieux aligné depuis 3 ans. Je vais aller là. Fait qu'à un moment donné, peut-être que tu te dis, ouais, les libéraux sont dans un scandale épouvantable, mes valeurs ne m'amènent pas là. Ouais, la CAQ, ouf, usure du pouvoir, c'est de la bouette. Ils nous ont fait plein de promesses, mes valeurs ne m'envoient pas là. Le Parti conservateur, crime, quand j'ouvre Facebook, j'ai des uberlus qui n'arrêtent pas de me crier après, chez le malheur de dire, mais ça me semble qu'Éric Duhem a dit quelque chose de pas correct. Puis Québec solidaire, ben écoute, c'est le virage à gauche. Fait qu'à un moment donné, je te fais mes valeurs à moi personnellement, là.
T'es embêté?
Ben, j'ai jamais voté PQ de ma vie.
Ouais.
Puis, gars, là, je te fais mon schéma de valeur, là, puis je suis au PQ.
J'avoue.
Fait que je suis dans le 39%.
Puis, j'ajoute un autre élément. Les Québécois ont tendance à voter de manière un peu contraire au fédéral, puis au niveau québécois. T'as vu, je me suis empêchée de se promettre. Ils ont voté pour Mark Carney.
Oui.
Fait que là, puis il est pas très pro-Québec, puis tout ça. Fait que là, on dirait qu'il compense l'autre côté.
Ouais. Il est pas très pro-Québec. Ben, Mark Miller est pro-Québec depuis ces temps-ci.
T'as-tu entendu son beau plaidoyer hier? Il était écœuré d'entendre parler de langue. Bon,
mais attends, je vais te le faire écouter. Okay.
Ce que je déplore dans cette discussion, c'est la politisation de l'enjeu. Je veux quand même le dépolitiser. Mais je pense que c'est utilisé pour des raisons identitaires, puis je pense que, comme Québécois, année de ce débat. Il faut faire un effort supplémentaire. Je pense que ça prend l'implication du fédéral, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, surtout ailleurs au Canada. Ce que je refuse, c'est ce catéchisme que veulent certains partis politiques pour dire que le français est en recul total.
Je vais t'en faire une autre hypothèse du plus 7%. Les libéraux canadiens sont tellement pourris que le monde dit « C'est qui meilleur pour aller combattre? » Le PQ.
Le PQ, c'est ça. On va avoir un bon show.
Ah,
c'est ça qu'on se dit.
C'est vrai.
Et un autre donnée qui est un peu catastrophique là, pour Pablo Rodriguez dans ce sondage, c'est quand on pose la question « Avez-vous confiance que Pablo Rodriguez peut rebâtir le Parti libéral du Québec? » 52% pensent que non. 17% pensent que oui. Seulement. Et il y a quand même un 31% qui ne sait pas. Tu es en train de se faire une opinion.
43% à l'intérieur du Parti libéral, seulement 43%. Mais pour André Fortin, c'est suffisant, on l'écoute.
Il y a une chose que je vais noter dans le sondage qui a été publié ce matin, là, c'est que chez les électeurs libéraux, chez les supporters du Parti libéral, chez les gens qui veulent que le Parti libéral offre une alternative sérieuse au gouvernement, Pablo Rodriguez a l'appui d'une grande majorité de ces gens-là.
39% disent qu'ils n'ont pas confiance en Pablo Rodriguez chez les électeurs libéraux.
Moi, j'ai vu une majorité d'électeurs libéraux là, qui...
Oh, on est passé de très grande majorité
à Pablo
majorité.
Rodriguez, qui, comme nous, comme les députés du caucus ici, donnent leur appui à Pablo Rodriguez. Et c'est pour ça que, pour nous, là, il a notre confiance à 100%.
100%!
Oh,
il a la confiance à 100% du caucus.
100%.
Pas sûr de ça, là. Moi, c'est pas sûr. Ben, déjà, là, il n'a pas la confiance de Marois Risky puis de son mari.
Il n'est plus dans le caucus pour ceux qui ont 100% à ça. Mais le chum à Marois, c'est pas trop.
Mais ça aussi, c'est catastrophique. Là. 43% à l'intérieur des libéraux. Tu peux pas sortir comme André Fortin ce matin, qui remplace Marois Risky à l'Assemblée nationale, plus je me trompe dans le titre, tu me le diras, comme chef parlementaire, et qui s'en va dire, ben non, une très grande majorité. Hey, c'est 43% normalement à l'intérieur de tes sympathisants. Quand tu vas dans un vote de confiance à un congrès...
On se rappelle, Bernard Landry est parti avec 76%.
Ben, c'est ça. Puis tu ne scores pas 90%, tu te poses des questions sur ton leadership.
Non, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Puis même si tu dis, ouais, mais là, les chiffres, c'est sûr, chez les non-libéraux, nanana, ben c'est parce que tu as besoin de croissance aussi.
Ben c'est ça. C'est parce qu'à 21%, à 12% chez les francophones, avec le PQ qui frappe à 48%, ben le Parti
libéral... On
le voit pas,
là, le chemin vers la victoire.
Le Parti libéral va rester le parti... des communautés anglophones à Montréal et that's it.
Exactement. Puis il y avait un sondage Palace d'Hôtel la semaine passée qui démontrait que Pablo Rodriguez tirait déjà le Parti libéral vers le bas. Et là, ça va de mal en pis. Puis l'autre élément important dans ce sondage, c'est à quel point la CAQ n'a pas bougé. Là. Honnêtement, les réflexions de M. Legault doivent quand même se poursuivre. C'est quelqu'un de très têtu. Moi, je n'exclus pas qu'il reste. Et surtout que la crise chez QS et au Parti libéral, c'est comme si ça lui avait donné la possibilité de prendre une grande respiration entre deux vagues d'eau. Là.
Mais malheureusement, ça lève pas.
Ça lève pas.
Les gens sont tannés de François Legault.
Mais lui, dans sa tête, là, personne ne peut le remplacer.
Non, je sais.
C'est il y avait ça encore, là.
Ben, il a été le bon Dieu de la COVID.
Oui.
Mais fondamentalement, à un moment donné, ça doit faire partie de ta personnalité parce que si tu restes accroché sur le fait que tu penses que le bon Dieu, il y avait quelque chose avant que le bon Dieu te laisse sa place sur le je veux dire, sur le stade, là. Tu sais, à un moment donné, moi, il y a bien des questions que j'aimerais poser à son entourage. Ouais. Je sais que c'est inaccessible, sauf qu'il faut se poser des questions sur la suite. C'est encore une histoire de la compagnie, finalement, la compagnie Legault Inc. Fait que quand Legault va quitter le bateau, il n'y a pas de repreneur. Alerte! Je veux dire, on va couler comme le bateau dans Astérix et Obélix.
Oui, mais hier, on a entendu Pierre Poilievre, son discours de Pâques. Là. Je pense que c'était pas Jesus Christ.
Il parlait
disait,
de
François Legault.
Mais il l'a dit, François Legault, en entrevue à la suite de son discours d'ouverture et remaniement ministériel, il a fait une tournée d'entrevue et il disait « Je peux pas m'en aller parce que les gens, là, c'est moi qui les ai recrutés. Puis c'est des gens très différents les uns des autres. Puis si je m'en vais, là, ça va pas tenir ensemble ce monde-là. Hey, ça va bien. Ça va, ouais. »
Juste parce que t'as pas eu ton rôle de leader à cœur ou au bon endroit au moment
t'as
où c'était important.
T'as pas pensé à long terme, t'as pas travaillé sur la suite des choses. Et là, mettons qu'il décide de s'en aller, là, spéculons.
Ouais.
Il y a une course à la chefferie. Je veux dire, les chances que des factions très, très, très différentes se forment.
Ça va se faire.
Ça va, c'est vrai que ça va se
faire. Les rouges, les bleus à l'intérieur de la CAQ.
La droite, la gauche, il y a tout là-dedans. Fait que là, imagine. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais c'est sûr, c'est pas un sondage qui est très reluisant non plus pour la CAQ. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui reste vraiment sûrement le plus de bonne humeur parmi nos chefs.
Dans ce sondage de la Nation. Hey, j'ai déjà changé.
Merci. Yes. Bravo.
OK, on fait une courte pause. Mathias Turcotte va venir nous voir pour nous parler en détail du budget de la ville de Québec. On va également vous faire des manchettes. On va vous parler de cette raclée que le Canadien a mangée 5-2 contre les Sénateurs d'Ottawa. C'est ce qui suit après cette courte pause sur les ondes de Boulevard 101. Vous êtes à l'émission On en jase.